L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Bertrand Cormier, prêtre du diocèse de Cahors.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Tibère César, Ponce Pilate. Toute l'histoire publique du Christ se situe en temps d'occupation. Il n'y a même plus la royauté vassale d'Hérode le Grand. Le gouvernement de la région est une tétrarchie. Chacun des deux fils d'Hérode n'a pu hériter que d'un quart. Hérode Antipas de la Galilée et la Pérée, partie sud de la Transjordanie. Philippe de la région au nord-est de la Galilée, donc en terre païenne. C'est lui, le mari d'Hérodiade, dépossédé par son demi-frère Hérode Antipas. Lysanias d'Abilène, partie de l'Iturée, au nord-ouest de Damas, dans l'Anti-Liban. Mais la Judée, territoire principal, est sous contrôle direct de Rome, en la personne de Ponce Pilate, qu'une inscription trouvée en 1961 dans les ruines du théâtre de Césarée de Maritime appelle « préfet de Judée ». Entre 26 et 36 de notre ère, enfin Anne et Caïphe, en titre, le grand prêtre de 18 à 36 après Jésus-Christ est Caïphe, mais son beau-père, Anne, c'est lui qui mène les choses. Nous voyons que Jésus est venu sur une terre agitée par les jeux de pouvoir de quelques hommes de l'époque. On ne voit pas grande différence avec notre histoire actuelle. Un envahisseur qui impose par la force son autorité sur des autochtones eux-mêmes divisés. Souvenons-nous de l'histoire du peuple de Dieu, le peuple né des reins d'Abraham, puis Isaac et enfin Jacob. 12 de ses fils et petits-fils donneront leur prénom aux 12 tribus d'Israël, qui finiront par se faire la guerre, être exilés et envahis plusieurs fois par leurs voisins, Assyriens, Perses, Grecs, avant les Romains. La région actuelle n'est pas du tout plus apaisée et nous pouvons alors mieux saisir la violence du pays où Jésus est né et a grandi. Cette violence l'a même conduit à être exilé avec ses deux parents en Égypte, comme leurs ancêtres, les fils de Jacob. Toutes ces relations, tous ces conflits, toutes ces traditions de l'alliance entre Dieu et son peuple ont façonné pour toujours le visage non seulement de la région, mais de ses habitants, comme si la paix ne pouvait jamais advenir en ces terres à la fois riches et désolées que convoitent pourtant les peuples alentours. Le peuple juif a été exilé et dispersé tant de fois, non seulement avant la naissance de Jésus, mais après et bien plus longtemps. Le rétablissement du peuple d'Israël en ces terres n'a pas suscité la paix, ni même aujourd'hui, et c'est à désespérer que cela soit un jour. Les quelques artisans de paix, même au plus haut niveau de l'État d'Israël, ont été muselés, voire assassinés, par les extrémistes de tout poil. Nous voyons bien qu'il n'y a pas un esprit commun de paix dominant, mais plutôt un esprit de domination où les plus faibles sont écrasés ou au mieux repoussés dans leurs frontières étroites, sans possibilité de décider de leur destin. On peut alors raisonnablement penser que Jésus a choisi délibérément cette terre si violente, si agitée, si contradictoire pour y faire naître et grandir d'abord son peuple puis son Fils unique. Son peuple a été l'écrin qui se prépare sans cesse à accueillir le Fils de la Lumière, le Fils de l'Homme, de l'humanité en marche vers son unité, et même de toute la création. Bethléem, berceau de la nouvelle humanité au cœur de l'occupation romaine. Voilà ce qui se passait il y a 2000 ans. 300 ans plus tard, l'empereur romain se convertira au christianisme. La plus grande révolution de l'histoire de la création et de l'humanité est partie de ce petit enfant si fragile, protégé par un couple fragile lui-même, un couple ordinaire. En France, on dirait aujourd'hui classe populaire. La faiblesse a vaincu la force par l'amour et la douceur, la tendresse et la paix. Le prince de la paix a le pouvoir fou de vaincre les rois de la guerre, les armées de la force. Même si les humains ne le veulent pas, cette énergie divine inscrite au cœur de toute créature peut réduire à l'impuissance toute force d'opposition à son amour, mais jamais par la force. Pour cela, il a fallu quelques humains à l'époque qui ont bien voulu entendre la parole de Dieu au milieu d'une agitation et d'une grande peur. L'évangéliste Luc vient de nous parler de deux annonces du ciel par l'ange et de deux naissances. Deux femmes vont donner la vie à deux hommes, Jean et Jésus. Leur mission conjointe va permettre l'annonce de l'évangile. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean. Ce fils de Zacharie est donc un fils d'Israël, un juif. Il croit à la parole de Dieu révélée. Il n'écoute pas que son besoin d'être reconnu, d'être le meilleur, le plus fort, d'être toujours plus riche, influent, avec une volonté d'imposer aux autres et de dominer. Il est au désert, ce lieu de révélation inscrit dans la mémoire collective de son peuple depuis la sortie d'Égypte il y a 1250 ans environ à son époque. Il sait que le mot « désert » dans sa langue maternelle signifie « lieu de la parole ». Il sait aussi qu'on ne peut entendre une parole dans le brouhaha. Il sait enfin ô combien la parole de Dieu est silencieuse, tel le prophète Isaïe qui la compare à l'eau qui tombe sur la terre et l'imprègne en la fécondant. Si saint Luc cite ce grand prophète de la première alliance, c'est qu'il veut inscrire la mission de Jean le Baptiste dans la continuité de celle d'Isaïe, ce prophète du temps de l'exil au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il commence son livre par « Consolez mon peuple ». Tout être vivant verra le salut de Dieu, la finale de l'évangile d'aujourd'hui. À l'époque, sans doute, ne prenions-nous pas autant conscience de l'importance que revêtent ces mots. Tout être vivant. L'évangile est proclamé à toute créature, et nous les humains en sommes chargés. C'est notre tâche, notre mission. Proclamer à tout être vivant que le salut est là, présent, offert à tous. Tout être vivant est invité à participer au royaume de Dieu que ce petit enfant de la crèche de Bethléem va initier sur terre, à l'époque. Sans l'humanité, la création ne pourra pas entrer dans cette paix universelle divine. Le temps de l'Avent nous offre cette formidable opportunité de choisir l'unique voie du Christ universel, celui qui s'est révélé dans le Fils de Marie et qui continue son action salvifique aujourd'hui. Cela nous demande une grande disponibilité intérieure pour l'entendre, cet appel divin et universel, mais aussi une grande confiance en celui qui seul est capable de transformer suffisamment nos cœurs pour que nous puissions œuvrer à la paix autour de nous, mais aussi dans notre pays qui en a grand besoin ces temps-ci. Et enfin, la paix pour tous les êtres vivants, cette paix que les prophètes, pendant tant de siècles dans la Bible, ont annoncé, prédit, mais aussi espéré. Même au cœur des plus grandes violences, des plus grands conflits, des plus grandes résistances, ils ont espéré cette paix durable et profonde. Ils ont cru qu'elle pouvait atteindre tous les êtres vivants. Et d'ailleurs, on pourrait même dire, si cette paix n'est pas universelle, elle n'est pas, car il restera toujours des foyers de conflits, de haine, de volonté de dominer, qui risqueront d'embraser le monde et la création. La seule paix durable, c'est Jésus. Elle nous est offerte dans cette crèche, préparant nos cœurs pour en faire le berceau de ce Jésus.